Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à Bougoura, dans le cercle de Bafoulabé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La crue du fleuve continue au nord du pays. Elle provoque l'apparition d'animaux aquatiques sur les berges du fleuve. Quels sont donc les risques de cette situation pour les populations riveraines? Élément de réponse dans ce journal. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye souhaite le maintien de l'alliance des États d'Israël au sein de la CEDEAO pour, dit-il, éviter une désintégration de l'organisation. Fédérer les actions dans le domaine de la culture, de l'art et du tourisme, de l'artisanat dans les trois pays de l'AES sur le thème d'un colloque portant sur l'élaboration de la politique culturelle commune des pays du Sahel. Voilà pour les sommaires, le développement dans un instant avec Imirana Kilomaïga, la mise en nom de Philly Dameli. Je le disais dans les titres, la crue du fleuve Niger continue de provoquer des inondations dans les régions de Mopti au centre, mais aussi à Tombouctou et à Gao au nord du Mali. En plus de dégâts matériels importants qu'elles causent, ces inondations comportent aussi des risques pour les populations, car les eaux drainent avec elles des animaux aquatiques dangereux comme les caïmans, les crocodiles, les hippopotames, les serpents, entre autres. Une situation qui inquiète les populations. Fatih Yatara nous en dit plus.
À Mopti, une zone où le fleuve a beaucoup débordé, des pêcheurs et autres personnes exerçant des activités autour du fleuve déplorent l'apparition d'animaux aquatiques d'une autre époque. Boubacar Dambélé, pêcheur dans la région, affirme que l'exercice de leur métier est devenu périlleux.
Lors de nos parties de pêche, nous rencontrons les hippopotames en fréquence. Il y a aussi des gros serpents qu'on ne connaissait pas chez nous, ainsi que des caïmans. Même la nuit dernière, mon ami a failli être mordu par un crocodile.
Un malheur qui arrive, c'est peut-être une bénédiction non encore reconnue comme telle, a-t-on coutume de dire. À Diré, dans la région de Tombouctou, la pêche de cette année s'annonce fructueuse à cause de cette crue. Plusieurs espèces de poissons qui avaient disparu depuis des lustres sont réapparues, rapportent des pêcheurs. Un constat partagé par Faradji Diallo, un sexagénaire de la localité.
Les eaux ont débordé de façon spectaculaire, mais j'avoue qu'aujourd'hui, on constate la présence de beaucoup de poissons qu'on connaissait autrefois qui avaient disparu. Par exemple, les tétrodons et autres types de carpes. On en trouve même dans les petites mares.
Il faut signaler qu'à ce jour, de grands risques d'inondation planent encore sur les habitations de Bokiat à Tombouctou et Bourem, région de Gao. Cela à cause du débordement des lacs et autres marigots qui servent de retenue d'eau.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Je l'annonçais dans les titres, le président sénégalais souhaite le maintien de l'AES au sein de la CEDEAO. Rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'alliance des États d'Israël au sein de la CEDEAO. Cette déclaration est du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Il dit être convaincu du maintien de cette organisation puisqu'elle est déjà là et qu'elle répond à une réalité sécuritaire à laquelle les pays font particulièrement face. Il a fait ses annonces le dimanche dernier lors du forum de au Qatar sur la sécurité et la gouvernance mondiale. Quel peut être l'impact de ce maintien sur les deux organisations? Quel regard des experts politiques et économiques sur la question? Des éléments de réponse dans ce reportage de Lale Tangara.
Dr Balandjakité, politologue et chercheur, indique qu'il y a aujourd'hui cette inquiétude du côté de la CEDEAO de voir un certain nombre de ses États membres quitter l'organisation. Selon lui, ces retraits peuvent affaiblir le fonctionnement de la CEDEAO.
Cette Afrique de l'Ouest qui est confrontée à beaucoup de crises, à la fois sécuritaires, humanitaires et économiques, pour ne pas finalement tomber dans une sorte de désintégration de ces États. C'est dans cette dynamique qu'on doit placer les propos récents du président Diomaye Faye.
Toutefois, en termes économiques, il y a forcément de l'avantage dans la coopération entre les pays de l'AES et de la CEDEAO. C'est ce que soutient professeur Sekou Diakité, enseignant à la faculté des sciences économiques et gestion de Bamako.
Les pays sont obligés de coopérer. Ça ne sera plus dans l'espace économique de la CEDEAO. Ça sera maintenant entre les pays de l'AES et individuellement les pays limitrophes de la CEDEAO ou d'autres pays. Les pays sont obligés maintenant de prendre en compte la souveraineté de l'AES et les aspects avantages que peuvent tirer les uns des autres.
Notons que le sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est prévu le 15 décembre prochain sur le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger.
Sur toute autre information, le guide d'accès des associations et des groupements des femmes et de jeunes aux terres agricoles aménagées a été validé hier à Bamako. Il vise à faciliter de la pratique la concrétisation de la volonté politique manifestée à travers la loi foncière. Le développement de ce guide est une contribution aux efforts de plaidoyer des filières des femmes et de coopération paysanne quant à l'accès aux terres cultivables. C'est une initiative de l'ONG Mercy Corps et ses partenaires. Salim Sissé, secrétaire permanent du Comité national du Conseil supérieur de l'agriculture, chargé de la mise en œuvre de la loi d'orientation agricole, au micro de Mariam Koulibaly.
La loi sur le foncier agricole, qui est à son article 13, parle de l'accès de la femme, des jeunes aux terres aménagées par l'État et les collectivités. Alors, c'est dans le cadre de mettre en suspens, notamment l'article 13, qui permet aux femmes et aux jeunes d'avoir accès à la terre. Quand on prend une disposition, les dispositions sont d'application de l'eau, nécessite l'élaboration des textes. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à élaborer ce guide qui peut servir de bréviaire pour les différents services techniques dans le cadre de leur orientation par rapport à l'octroi des terres à ces groupes de femmes et jeunes. Dans un premier temps, d'attirer l'attention sur le fondement juridique qui donne autorisation à ces groupes de femmes pour avoir accès à la terre. C'est d'amener par le mécanisme par lequel il faut pour attribuer les 15% des terres à ces groupes de jeunes et de femmes également.
Les travaux du processus d'élaboration de la politique culturelle commune des États de la Confédération de l'AES ont été lancés le jeudi dernier à Bamako. L'objectif est de fédérer les actions de trois États de l'AES dans le domaine de la culture, de l'art, du tourisme et de l'artisanat. Cette rencontre est une initiative du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Hôtellerie et du Tourisme. Moussa Agmaha était à la rencontre.
L'élaboration de cette politique culturelle commune vise à consolider les sentiments d'appartenance entre les peuples de la Confédération de l'AES, a déclaré M. Mamou Dafé, ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme du Mali.
Ce projet traduit également notre engagement collectif à travailler ensemble pour promouvoir les échanges et les brassages culturels entre nos peuples. L'art, la culture demeure véritablement la réponse pour relever les défis tant sécuritaire, diplomatique, mais socioculturel.
De son côté, les représentants de l'ambassadeur du Burkina Faso, Dramane Diabaté, affirment que les échanges entre les experts au cours de ces travaux permettront d'atteindre les objectifs.
Des réflexions qui permettront de donner corps réellement à l'ensemble de ces politiques qui sont nationales, mais qui pourront permettre à ce que nous soyons dans l'esprit exactement impulsé depuis l'acte fondateur de la Confédération AIS, nous permettre d'atteindre tous les objectifs.
Il faut noter que des délégations d'experts venus du Niger et du Burkina Faso prennent part aux travaux de cet atelier qui prendra fin le 14 décembre 2024.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Au Mali, dans de nombreuses localités du pays, on affirme que le prix du poisson fumé est en baisse. Des habitants des régions de Mopti, Ségou, Sikasso, Bandiagara, Bankass et Bafoulabé attestent de cette diminution. Dans notre rubrique du jour, on en parle. Des propos recueillis par Ali Sissé avec le concours de nos correspondants locaux.
Par la grâce de Dieu, le poisson fumé est moins cher aujourd'hui à Mopti. Le prix aussi entre 1250 et 1500 francs.
Le prix de la silure fumée varie aussi entre 1000 francs et 1500 francs CFA.
Le kilogramme du poisson est cédé entre 2250 francs, voire 2500 francs à Bankass aujourd'hui.
On peut avoir le poisson fumé à des coûts abordables en allant de 100 à 500 francs.
Le poisson fumé est abondant sur le marché, mais il arrive que le prix grimpe pendant dans les jours de foire. Le prix ballotte entre 2250 et 2500 francs à Ségou ici.
Poisson fumé, c'est pas facile. Il y a un moment, on est parti jusqu'à même à 4000. De 4000, on est revenu à 3750. Le prix n'est pas vraiment aussi abordable que ça.
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine avec Mamadou Samasekou.
L'actualité de cette semaine a été marquée par des actes de violence qui ont ciblé ces derniers jours des populations à Massina, Banamba et Kamparana. À cela s'ajoutent les opérations offensives de l'armée. Dans sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, l'armée dit avoir repoussé et neutralisé des groupes terroristes. Autre fait de l'information, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre. Le thème est « S'unir avec les jeunes contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Au Mali, des organisations de jeunes soutiennent que le phénomène reste un grand défi à relever, surtout dans les domaines de l'éducation, l'emploi et les formations professionnelles. Par ailleurs, la 28e édition de l'espace d'interpellation démocratique EID s'est tenue ce mardi 10 décembre 2024. 554 dossiers d'interpellation ont été retenus cette année par le secrétariat permanent du médiateur de la République. Ces interpellations portaient entre autres sur des problèmes fonciers et de justice. Enfin, nous terminons par la culture. Le Balafon est désormais inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. La nouvelle tombée le 6 décembre dernier est accueillie avec joie et fierté par des joueurs de balafon, mais aussi des acteurs culturels du Mali.
C'est tout pour cette édition, mais avant de se quitter, nous recevrons Lala Diahara Touré pour l'introduction du club de Tamani. Bonsoir Lala, ce soir, vous allez parler de la valorisation du balafon, n'est-ce pas?
Bonsoir Imirana Kilumaiga. Suite aux travaux de la 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le balafon a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Nous en parlons ce soir au club avec M. Karim Bengali, enseignant-chercheur au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balafassi Kikuyati. Le club ce soir est une présentation de Aïssata Diarra et moi, Lala Diarra Touré. Merci et à tout à l'heure.
Merci. Et à tout à l'heure toi-même. Voilà, c'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Imrana Kilomega. Au Mali, plusieurs routes nationales sont dégradées ces dernières années. C'est une situation que déplorent des Maliens au sud et au nord du pays. Ils estiment que la dégradation des routes impacte négativement l'économie de leur localité. Des transporteurs et des commerçants de ces zones dénoncent aussi le mauvais état des axes routiers réduisant le déplacement des personnes et de leurs biens. Pour des économistes, le désenclavement est essentiel pour le développement économique d'un pays. Quel est l'impact de la détérioration de routes sur l'économie, des éléments de réponse dans ce magazine Économie réalisé et présenté par Ousmane Nyalibouli.
Dans la région des Kayes, des commerçants et des transporteurs déplorent l'état de la route entre Bamako et Kayes. Ils estiment que la dégradation de cette route impacte l'économie de la région.
Les routes sont vraiment dégradées et c'est ce qui détruit nos véhicules. Une situation qui provoque souvent un malentendu entre les chauffeurs et les propriétaires de véhicules.
Ça impacte vraiment notre économie.
Tu as besoin de tes marchandises, mais les véhicules ne viennent pas vite. Et si les produits deviennent chers, les clients se plaignent aussi.
Là, c'est diamant.
Les mauvais états des routes impactent énormément les rendements que l'on attend des transporteurs. C'est ce que souligne Mahamane Kunta, secrétaire général de la Fédération nationale des transports, FENA. En plus, il estime que l'état désastré des voies détruit leurs véhicules et entrave leur mouvement.
Il est très important quand même de considérer que le transport ne peut assurer que lorsque les routes sont en bon état. Il est évident que si ces routes-là se dégradent, et cela impactera beaucoup les transports routiers.
L'économie de la région de Gao est à point mort, c'est ce qu'estime Soumeilou Soumaré, président du conseil régional de la société civile de Gao. Selon lui, la dégradation de la route Gao-Sévaré impacte négativement la ville, voire plusieurs localités du nord.
Aujourd'hui, nous savons que la route n'est pas seulement dégradée, mais il n'existe même pas de route. Et donc, la ville est dépourvue d'approvisionnement. Tout ce que nous recevons aujourd'hui dans la région de Gao nous vient soit de l'Algérie ou du Niger. C'est vrai que nous avons les pinasses qui permettent d'approvisionner un peu Gao, mais c'est très lent. Aujourd'hui, tout est cher à Gao. Une économie difficile.
Au centre et au nord, plusieurs localités ont été inondées par les eaux du fleuve Niger ces dernières semaines. C'est le cas à Yuaru, dans la région de Mopti. Les habitants des cercles déplorent cette situation. Selon eux, ce phénomène a causé la dégradation des routes et impacte sur l'économie de la ville.
Les inondations ont détruit les routes et les eaux du fleuve ont aggravé la situation.
Maintenant, même avec la décrue, nous
nous aurons des problèmes de route. Et si on ne répare pas, on ne peut aller nulle part.
Chez nous à Yuwaru, les eaux ont gâté toutes les routes. On ne se déplace qu'avec l'épinasse.
La situation est aussi inquiétante à Bourem, dans la région de Gao. Selon Ibrahim Aboubakarine Maïga, notable, le pont reliant Bourem à Gao est sur le point de céder. Et si cela arrive, l'approvisionnement de la ville sera rompu, souligne les notables de Bourem.
Bourem sera enclavé par la route qui passe par Gao. C'est tout le pont de Kalani. Maintenant, c'est les populations des villages qui se lèvent, prennent des sacs, mettent du sable là-dedans pour protéger. Mais avec tout ça, il y a l'eau qui monte sur ça. Ce n'est pas une solution très urgente. Bourem sera enclavé. C'est tout avec le prix des céréales.
Pour l'économiste Dr Modibo Mao Makalu, il est important d'entretenir les routes dans le cadre de la croissance économique et du développement. Selon lui, sans des routes en bon état, il est difficile pour un pays de s'épanouir économiquement.
Les routes sont essentielles pour le développement social et économique d'un pays, de même que même au niveau de la sécurité. Et ça permet aussi de fluidifier les échanges commerciaux, ça renforce l'industrie et ça permet de lier les zones de production aux zones de consommation. Ça permet aussi de favoriser les échanges interculturels.
Pour un changement positif et un meilleur développement économique du pays, nos interlocuteurs lancent un appel à l'endroit des autorités et des partenaires pour réhabiliter les routes nationales.